Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir Seb pour ce numéro eTeachers 97.
Bonsoir Jeff.
Ici, 14 novembre, sous la neige pour moi, on en parlait tout à l'heure en off.
Ça neige sous la pluie
beaucoup,
pour moi.
Ça neige beaucoup, en tout cas, dans la Loire. On se retrouve à deux. Guillaume, lui, il a carrément un problème.
Ouais. Sous le noir.
Ouais, a priori, ouais, il a carrément un problème d'électricité. Donc, c'est une bonne excuse, en tout cas, qu'il a trouvé. Il ne faut pas être là. Hein. Il doit être devant le match de l'équipe de France, non?
Guillaume, moi je n'ai rien dit. Voilà, c'est bon. Ça fait plaisir.
Alors, en tout cas, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, on a eu les vacances d'ici là. T'as bien repris, toi, Seb?
Ouais, une reprise dans la douceur de l'automne où on se rappelle qu'il faut mettre des manches longues.
Tout à fait. Bon, en tout cas, une émission, même si on est deux, assez riche. Si je fais un petit sommaire, en tout cas, de l'émission, on a quand même quatre ou cinq actus sur un petit peu les MOOC du moment. On va parler outils, on va parler BD, on va parler poster, audio, on va parler moteur de recherche. Tu as un petit truc et astuce en tout cas sur Windows, notre ami Windows, Seb. Moi j'ai essayé d'analyser un article sur innovation et expérimentation sur le comportement des élèves, tout un programme. Et on finira bien sûr par nos habituels ce que l'on fait en ce moment et bien sûr pour parler d'autres choses. Un sommaire bien riche, en tout cas. Hein,
ouais, on va essayer de se cantonner à une heure, pour une fois. Allez.
On va essayer. On attaque par actu?
Allons-y, c'est parti.
C'est moi qui attaque, parce que je suis dans l'ordre.
Allez. Pars dans les MOOC.
Allez, moi, je suis MOOC en ce moment, de ce mois de novembre. Deux MOOC. Alors, un MOOC un petit peu auto-promo, puisque c'est... un MOOC tablette qu'on a fait avec la Danne de Lyon qui est déjà ouvert, donc dépêchez-vous, il est encore 3 semaines dessus, où vous allez trouver plein de choses sur par rapport aux tablettes, l'utilisation des tablettes en classe, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré. On va avoir en tout cas plusieurs parties, une tablette par exemple pour individualiser, pour pratiquer l'oral, une tablette sans internet, une tablette pour filmer, monter, animer, une tablette pour augmenter le réel, une tablette pour ludifier, une pour voyager et une pour s'informer. Donc, vous avez différentes parties comme ça qui sont classées par atelier. Et vous avez aussi quelques éléments où vous pouvez aussi picorer quelques éléments sans participer forcément à l'atelier sur différents domaines aussi d'utilisation des tablettes. Voilà, le lien est dans les notes de l'émission. Sinon, vous le trouvez dans, vous tapez Danne de Lyon sur un moteur de recherche et vous allez trouver très rapidement ce MOOC. C'est accessible uniquement pour les personnes de l'éducation nationale. Je suis désolé pour les autres. Il faut avoir un arrobase assez Lyon puisque c'est sur la plateforme, notre chère plateforme qu'on connaît bien qui s'appelle Magister.
Alors, question, ça veut dire que moi, je peux pas le faire, par exemple?
Si, tout à fait, mais tu as accès à Magister, toi.
Non, parce que tu as dit assez Lyon, c'est pour ça.
Ah, pardon, un AC, tout simplement, un académique.
Voilà, d'accord.
Si, si, excuse-moi, non, c'est national, mais il faut que ce soit absolument du personnel de l'éducation nationale.
Oui, c'est assez large hein, comme utilisation de la tablette, en tout cas.
Oui, ça touche plein de domaines, et puis tu peux trouver dans différents degrés, en tout cas, des exemples d'utilisation, d'application, d'usage, avec pas mal de vidéos, tu vas voir, on a fait quand même pas mal de vidéos sur des usages en classe. Donc voilà.
D'accord.
Je continue, je suis dans les MOOC, hein?
Vas-y.
Alors là, je suis un MOOC qui se trouve sur la plateforme Fun, qu'on parle depuis assez souvent, Fun MOOC.
France Université Numérique.
Bien joué. Qui est un MOOC qui est modélisé en 3D avec FreeCAD. La modélisation 3D, c'est quelque chose qui me touche particulièrement puisque, vu ma discipline et mon cursus, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Et habituellement, on modélise beaucoup le gros logiciel qui est de modélisation, en tout cas en SI, etc., ou dans l'industrie, c'est le célèbre SolidWorks, mais qui vaut une fortune, qui est lourd à installer et qu'on utilise souvent en collège ou en lycée à 10% de ses possibilités. Il existe une version libre qui s'appelle FreeCAD, moi que j'avais essayé et franchement qui est un peu déroutante en premier abord, hein. L'interface n'est pas super fun, un peu austère, mais je pense qu'une bonne formation va me faire du bien là-dessus. Donc je me suis inscrit là-dessus, elle est faite en tout cas par l'Institut Mines-Télécom, donc des gens plutôt sérieux derrière. Vous seriez en tout cas, on sera accompagné par une équipe interdisciplinaire d'artistes et de makers, on aura un peu des deux, de l'ESAB. Que je connaissais pas, le ESAB de Rennes et de l'IMT ingénieur, donc c'est une école d'ingénieurs de l'IMT Atlantique et des développeurs de la communauté FreeCAD. Donc c'est l'occasion en tout cas de s'essayer à FreeCAD qui est un logiciel vraiment très puissant en tout cas pour faire de la 3D dans tout avec n'importe quel pour faire de l'impression derrière, pour faire de la commande numérique. Donc voilà, pour faire du design en général. Ça commence en tout cas le 22 décembre. Les inscriptions sont jusqu'au 22 décembre. Mais le début du cours commence le 19 novembre, donc la semaine prochaine, puisqu'on est le 14. Ils disent un effort estimé de 4 heures par semaine. Je ne sais pas si j'aurai 4 heures à consacrer en tout cas à ce MOOC. J'arrive jamais. J'ai toujours plein d'entrains sur les MOOC et j'ai vraiment du mal à les finir. Mais.
Bienvenue dans le monde réel, quoi.
Voilà, tout à fait. Et puis quand on est de l'autre côté, quand on fait des MOOC, on s'en rend compte aussi que si on a 10% de personnes qui participent à fond au MOOC, c'est un MOOC réussi. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà, sur cette partie MOOC.
Du coup, tu nous feras un petit retour si tu parviens à boucler ton MOOC.
Alors même si je ne le boucle pas, j'en ferai un retour quand même.
Ah, ouais, chouette.
Voilà.
Chouette, chouette, chouette. Alors moi, je vais vous faire un petit point rapide sur les événements qui se sont produits autour de cette date de mi-novembre. Il y a quelque temps, les yeux technopédagogiques étaient tournés vers la Belgique avec l'épisode belge de Ludovia qui s'est passé du 29 au 31 octobre dans la ville bien nommée de Spa. Ça laisse rêveur.
Ah, célèbre pour son circuit.
Voilà, donc je vous invite, comme d'habitude, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, Jeff et moi sommes dans ce cas, bah, vous pouvez toujours vous rabattre sur les vidéos de Ludomag, que ce soit sur le site, voilà, sur leur site directement ou sur leur chaîne YouTube. Ils ont mis en ligne les différentes interviews qu'ils ont faites. Donc on va retrouver des têtes que l'on connaît parfois. Et vous avez une petite présentation générale où apparaît François Jourde, par exemple, pour ne pas le nommer. Tu as suivi un peu l'événement, toi, Jeff, ou simplement
De
sur les réseaux?
loin, de loin, de loin. J'ai failli parler de quelqu'un qui avait utilisé l'application pour faire des jeux vidéo, que tu avais parlé, la Bloxels, je crois, c'est ça?
Alors, bouge pas,
C'est
je
ça?
l'ai pas loin, c'est Bloxels. Oui, tout à fait.
Bloxels, voilà. Et qui a fait un super travail avec ça. Quand tu m'en avais parlé, je n'avais pas trop vu l'intérêt de l'utiliser. Et tu sais, je me suis dit, bon, je vois pas pourquoi moi j'utiliserais, ça me va pas, c'est pas du code, etc. Et là, il y avait plein plein d'éléments narratifs, en tout cas, elle était utilisée avec des élèves décrocheurs, etc. Et c'était. Donc j'ai vu cette vidéo. Donc plutôt très intéressant en tout cas.
Voilà,
Mais
je ne
sinon,
connais
j'ai
pas
vu
du
ça
tout.
de loin.
D'accord. pas mal le prendre du tout que tu n'aies pas accroché à ma présentation. C'est pas grave.
Non. C'était pas que j'ai pas accroché à ta présentation. Je me suis mal exprimé. Je n'oserais pas. J'ai dit simplement que je ne voyais pas où je pouvais l'utiliser.
Le potentiel.
Potentiel. Voilà. Je cherche mes mots.
Mais moi, je les trouve, rassure-toi. Et dans une semaine, figurez-vous qu'on va se tourner un peu plus vers la capitale, puisqu'il y a Educatech Educatis qui est annoncé aux dates des 20, 21 et 22 novembre. Bon, alors Educatech Educatis, là aussi, nous n'y serons pas, hein, forcément. Vous avez le programme sur leur site qu'on vous mettra dans les liens de l'émission, bien sûr. Et je parlais des réseaux tout à l'heure parce que je ne sais pas toi, mais moi, mon Twitter en ce moment, c'est « Est-ce que toi, tu y vas ?»« Ah oui, moi, j'y vais. »« Ah, est-ce qu'on s'y voit ?» Donc voilà, hein, deux événements. Donc, on aura
pas mal à faire. Pardon ? T'as regardé le programme sinon, non ?
Le programme, très non. Rapidement, non, et il y a beaucoup, enfin, il y a du jeu vidéo dedans qui tourne, ça oui, j'en ai vu. Maintenant, c'est... Il n'y a rien qui...
C'est toujours, comme je te disais, c'est toujours un peu la grande foire entre les industriels et les enseignants. On ne voit pas beaucoup, beaucoup d'enseignants, moi, je trouve. Mais bon, après, je me trompe. Mm-hmm. Mais... il t'arrive, on vient de chercher encore.
Ah, ça y est. Super. Bon, mais bienvenue, Anis.
C'est vrai que je ne sais pas si on pourra faire un retour dessus, mais en tout cas, on est preneurs de s'il y a quelqu'un qui veut nous faire un retour... des suréducatistes, en tout cas, il est bienvenu. Hein, qu'est-ce que tu en penses ?
Tout à fait. Si vous avez une expérience, vous avez fait votre premier éducatech éducatis, vous êtes des habitués, vous avez un avis, une opinion, une histoire à nous raconter, contactez-nous sur nos réseaux.
Ouais, ce serait cool.
Ben oui.
Ok.
Ok. On va quitter les salons. Ouais, on va rentrer dans mon salon. Là, j'ai passé un petit moment avec Madame Touret et son émission Être et Savoir, que je ne dise pas de bêtises.
C'est ça.
J'écoute en podcast que j'écoute en podcast tout simplement. Et elle avait une émission qui s'intitulait le 3 novembre La culture YouTube. Alors moi, ça m'intéressait parce que, bon, j'en suis un consommateur, certes, de YouTube. Et je me disais, quel regard elle va pouvoir porter avec son émission par rapport aux côtés des apprenants? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être? Vraiment, c'était le regard qu'elle voulait, l'angle d'attaque qu'elle allait choisir pour parler de YouTube. Parce que YouTube, on peut en parler de 40 000 façons différentes. Ben, dans son émission, je me suis dit, ah chouette, ça peut être pas mal. Bon, alors, je vais vous épargner une émission.
Ah.
C'était un peu YouTube expliqué à ma grand-mère, quoi. Voilà.
Ah,
c'était un peu une présentation très générale de YouTube, de « Ah oui, alors il y a des chaînes, pourquoi on appelle ça des chaînes, blabla, oui, d'accord. » À part le petit segment où il parle de la sous-représentation féminine et des stéréotypes qui sont très présents sur YouTube. Voilà, c'était le petit moment qui m'a un petit peu intéressé, mais bon, je n'ai pas appris grand-chose. Très, très, très déçu. Alors que, bon, j'en attendais pas mal. Et c'était amusant parce que, justement, récemment, pour ceux qui connaissent la chaîne du Joueur du Grenier, surtout sa chaîne secondaire qui s'appelle Le Bazar du Grenier, sur laquelle un des deux fondateurs, Frédéric Molas, a fait une vidéo dont tout le monde un peu s'est emparé en ce moment, c'est « Le YouTube actuel m'ennuie ». Et il détaille en tant que YouTubeur des premières heures ce qui maintenant ne le passionne plus en tant qu'utilisateur de YouTube, ce qui le fatigue. Et en gros, c'est toutes les vidéos qui sont en tendance ne lui parlent absolument pas. Et tous ceux qui font énormément de vues font des contenus qui lui semblent hors de celui qu'il propose. Et ça, par contre, cette opinion-là, cet aperçu-là m'a beaucoup plus parlé que l'émission où j'attendais, par exemple, des choses sur comment certains ados peuvent s'emparer de YouTube pour en faire un instrument d'apprentissage, ou etc. Non, 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 non. J'ai juste su que Norman, Cyprien et Squeezie avaient des chaînes très, très importantes.
Ouais.
Super. Voilà. Voilà. Mais voilà,
Tu veux dire que le public de Être et Savoir est un peu vieux, c'est ça que tu veux dire?
Non, c'est pas ça, parce que j'en fais partie du public, et certes, je suis dans les vieux de ceux qui vont sur YouTube, mais franchement, moi, j'attendais plus. Là, c'était une émission, alors qu'il y avait des invités, je pense, qui auraient pu, Il y en avait un, du moins, qui, au vu de ce qu'il avançait, connaissait son sujet. J'avais vraiment espéré un peu plus. Parce que si tu parles de YouTube dans le contexte apprenant, alors oui, à un moment, il parle 5 minutes de Nota Bene. Ben, ok, ben alors à ce moment-là, si tu parles 5 minutes de Nota Bene, parle des autres chaînes. Parce que les chaînes de culture générale sur YouTube, elles sont intéressantes. Il y a vraiment des trucs. Si au lieu de me parler de McFly et Carlito, tu me parles de Patrick Beau, je m'y retrouve quand même un peu plus, quoi. Il y a vraiment des contenus qui sortent de l'aspect, ce que critiquait Frédéric Mollat, c'est l'aspect télé récupéré pour faire du buzz. Ça, oui, là, ça aurait été intéressant. Alors que là, franchement, je suis arrivé à la fin de l'émission, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est là, ce sera un oubli. Alors que dans son témoignage, franchement, j'ai commencé à réfléchir, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec les arguments qu'il avance, parce que le côté sympa de YouTube, c'est que tu peux avoir tes abonnements et complètement ignorer les vidéos que tu considères comme de la daube. C'était quand même sacrément plus utile à ma réflexion personnelle. Voilà.
Très bien.
Eh oui.
C'est un petit coup de gueule aussi, c'est bien.
Oh, c'était vraiment léger, hein. Là, le coup de gueule. J'aurais pu faire pire.
Allez, on passe à nos outils. On a
Allez,
fini
vas-y, sur la trousse.
En tout cas, l'actu était riche. Outils, j'attaque. Découvert un petit outil très simple pour faire des mini BD, en tout cas des mini planches de BD, qui s'appelle le Story Tool. Story, comme Story Tool. Il n'y a pas besoin de compte. Déjà, c'est super intéressant. On n'a pas besoin de se créer un compte, etc. On arrive sur le site, on fait Get Started et on arrive directement sur une planche. Alors, il y a plusieurs types de planches avec trois. Alors, les spécialistes ABD, c'est trois cases, on va dire. Mais,
un strip.
Ouais, voilà. Tu appelles ça comment? Un trip, c'est ça?
Un strip en trois cases. C'est les BD classiques façon Snoopy, Calvin et Hobbes, ce genre de choses.
Trois cases, on a du 4 cases, on a du 2x2, on a du 3x2 et du 2-1-2. Voilà.
Donc là, c'est le gaufrier pour les connaisseurs.
Là, ouais, je manque un peu de.
C'est pas grave.
Là-dessus.
J'aime quand même.
Ensuite, tu vas cliquer sur la case qui t'intéresse. Sur la case qui t'intéresse, tu vas pouvoir changer bien sûr l'image, forcément. Donc, une photo ou directement prendre une photo de ta webcam, pourquoi pas. Ou d'amener une photo extérieure de Pixabay, par exemple. Où, ils disent Pixabay ou Unsplash, qui sont des photos libres de droit. Ensuite, on va pouvoir changer la position et la taille de l'image dans cette case. Hein, etc. Ensuite, on va pouvoir gérer le contraste et la luminosité de l'image. Et on va pouvoir bien sûr ajouter une bulle. Donc une bulle, soit la bulle simple bulle qu'on va pouvoir déplacer, qu'on mettre où on veut. On va pouvoir mettre une, vous savez, les bulles rectangulaires où c'est un texte qui est peint.
Une cartouche.
Une cartouche, t'appelles ça? Voilà. Ouais. Ok. Ils appellent ça un caption en anglais, puisque c'est en anglais, j'ai oublié de le dire, un bubble caption. Voilà, et il y a ce qu'on appelle un yellow caption, qui est souvent en titre de la page, en tout cas. Voilà, ça s'arrête là. On a fait le tour le tour, on l'enregistre. Alors, il y a une version totalement gratuite, ils appellent ça un watermark, donc ça veut dire qu'il y a une petite marque de le nom de l'application. C'est en JPEG. On récupère un JPEG, donc une image. Si on veut aucune marque dessus de l'application, c'est 2$. Moi, je trouve ça plutôt correct, hein, franchement. On paye à la planche 2$ et on récupère une image en JPEG sans avoir de pub dessus. Je trouve que c'est très simple, mais ça fait super bien le job et super simple aussi de prise en main. Story Tool, voilà.
Alors, je confirme, hein, parce que j'y étais pendant que tu faisais la présentation. C'est vrai que c'est très simple. Et franchement, même le watermark, là, enfin, c'est pas un truc ignoble en plein milieu.
Non, non.
C'est un petit cartouche en toute fin, il y a pire. Hein.
Non, mais voilà, puis même si tu vraiment t'en veux pas ou que tu veux imprimer, etc., 2$, franchement, c'est très, très correct. Et puis, il n'y a pas de compte. C'est génial, pas de création de compte.
Ouais, voilà. T'arrives, c'est prêt.
Tout ouais. À fait.
Mais d'ailleurs,
voilà. Dis-moi.
D'ailleurs, imagine, tu fais ça et tu as envie d'avoir un poster avec ta bande dessinée.
Et ouais, comment je peux faire?
Imaginons, mais comment on peut faire?
Mais
Alors,
moi, je ne sais pas faire, moi.
ah, tu sais pas faire. Alors, pourtant,
Non.
j'avais parlé de Poster Razor il y a quelques numéros. C'est un petit logiciel libre qui vous permet, à partir d'une image, de la faire imprimer sur plusieurs feuilles
Plusieurs feuilles
A4.
que j'utilise très
Voilà.
souvent.
Voilà. Et de manière à avoir un truc bien gigantesque. Ça peut aller de très mesuré à bien gigantesque. Et bon, admettons que vous ayez, pour une raison ou une autre, besoin de ça de manière très temporaire et ponctuelle. Vous avez son équivalent en ligne qui s'appelle Rasterbator. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher les noms. Parce que, bon, Poster
J'aime beaucoup.
Razor, c'était rigolo. Mais alors, Rasterbator, on dirait un ennemi de Goldorak. Et
Un petit
encore.
peu, ouais, j'allais dire un Golgot, ouais,
Ah, bravo, le connaisseur. Ah, ça me plaît. Donc, quand vous arrivez sur la page de The Rasterbator, qui répond, c'est le Wall Art Poster. Donc, vous avez, franchement, après, vous allez retrouver, pour ceux qui ont déjà fait du poster Razor, vous avez vos rubriques habituelles, c'est-à-dire, bon, dis-moi quelle image tu veux. Alors, vous pouvez en prendre directement une du net, en mettant le lien de l'image, ou en télécharger une de votre ordi. Ensuite, vous lui spécifiez combien de pages en. Je crois que c'est vous le spécifiez le nombre de pages en longueur. Voilà. Vous lui dites en longueur, je veux 4, 5 pages, et il va vous calculer en fonction de la taille de votre image, le ratio de nombre de pages en ligne, etc. Ensuite, alors oui, alors les petites options que vous avez en plus par rapport à mon logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que vous pouvez rajouter du style si votre image n'en a pas. Enfin bon, moi je ne suis pas un grand fan de ça. Vous pouvez rajouter des couleurs si vous avez fait des opérations un peu particulières.
Ouais, j'aurais intérêt.
Et ouais, bon, après, si tu veux, quand tu as besoin d'un poster, franchement, tu n'as pas besoin de ça. Et à la fin, ben, écoutez, vous lui dites, voilà, ça y est, c'est fait, envoie-moi on a fini. Bon, alors, il vous propose de faire une participation, puisque c'est entièrement gratuit, j'ai oublié de le notifier, mais ce n'est pas obligatoire. Et dans le même temps où il vous propose ça, vous avez le téléchargement qui a démarré et vous avez votre poster qui est arrivé. Alors moi, j'ai essayé ça avec une photo. Ma foi, écoutez,
Nickel, aussi bien
ça.
que celui qui est installé là.
Alors, j'ai même envie de dire, c'est peut-être mieux parce
Pourquoi?
que vous avez l'option d'avoir une numérotation des coordonnées de chaque
Ah,
page.
c'est pas mal
Et
ça.
ça, si vous avez déjà essayé d'assembler des posters avec plusieurs images, ça peut être sympa, à moins que vous aimiez les puzzles comme moi. Mais bon, voilà, ça dépend des goûts.
Ouais, très bon outil. C'est vrai que c'est quelque chose
Voilà.
que je fais de temps en temps. Ça, c'est très très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut payer en Dogecoin. Alors, ça, c'est intéressant.
Alors, je ne connais pas le Dogecoin. Dogecoin. Ah, Dogecoin, pardon. Ah, ça y est, je viens de comprendre le
Dogecoin.
jeu de
Ah
mots.
ouais. Ah, j'adore. Bon,
Eh bien voilà,
non, non,
alors
très
voilà
très
pour
bon
le
outil.
poster. Voilà. Pour le poster, c'est bon. Oui.
Vas-y, enchaîne, hein, parce que c'est que toi,
Alors,
là. Ouais.
j'enchaîne. Petite news. Quant Junior s'est mise à jour. Alors, Quant Junior, je rappelle pour ceux qui dormaient à côté du radiateur. Moteur de recherche réservé à nos jeunes élèves, qui a l'avantage de proposer des résultats qui ont déjà été, comment dirais-je, sélectionnés pour éviter tout document à caractère choquant pour les jeunes têtes blondes, ou pas d'ailleurs.
Et sélectionné à la main, ils disent en plus. Hein.
Voilà, à la main, waouh, on dirait des cigares de Havane.
Non, mais
Donc,
c'est-à-dire que c'est pas un algorithme. Hein.
ben, c'est pas plus mal, on est d'accord.
Voilà.
Donc, cette sélection faite, donc vous avez le moteur de recherche. Cette fois, ils ont fait une petite remise en forme. C'est-à-dire que si vous vous rendez sur la page de Quant Junior, avant, vous aviez à peu près la même forme que son grand frère généraliste. Cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des petites rubriques du style, bon, ben, chercher, c'est le moteur de recherche classique. M'informer à ce moment-là, ben, les propositions vont sortir par exemple du site Un jour une actu, que moi j'utilise en classe par exemple. Vous avez des petites vidéos, des petites informations qui viennent un peu de partout. Apprendre, on va aller chercher des choses style les vidéos de Canopé, les fondamentaux. Et ils vous ont décliné encore ça avec français, langue étrangère, mathématiques, histoire, géographie, sciences de la vie et de la Terre.
Ah, c'est
Voilà.
bien fait, hein.
Vous avez un onglet jouer. Voilà, alors là, si vous, les premiers temps, vous tombez sur des bons coloriages, avec un petit peu de recherche, je pense que là. Et vous avez un dernier onglet, c'est activité. Voilà. C'est très. Je pense que ça devrait plaire aux... Alors, ça devrait plaire à mes élèves, tu vois. Je ne suis pas sûr que les collégiens y trouvent vraiment leur truc. Je ne sais pas si ça leur plaira comme mise en forme. Après, c'est mignon. Voilà. C'est mignon. Que dire de plus? Mais pas grand-chose. C'est juste de la mise en forme. Donc, pas grand-chose de plus à en rajouter. Et je vais terminer mon petit monologue sur une petite mise à jour disponible sur iPad. Alors forcément que sur iPad et encore sur... Il faut avoir au moins l'iOS 12 pour y avoir accès, c'est Dictaphone. Alors Dictaphone, c'est pas une nouveauté sur les tablettes, etc. Ça portait un autre nom auparavant, l'autre nom qui ne me revient pas, mais c'était en gros, c'est pour s'enregistrer. Et qu'est-ce que ça a de sympathique? C'est qu'en fait, ils l'ont mise à jour, leur application, et que maintenant, ben, je l'utilise en classe pour ce qui est enregistrement un peu rapide, etc. Au lieu de passer par Audacity, qui parfois est un peu lourd pour ce qu'on en fait. Là, les élèves peuvent s'enregistrer, bien entendu, c'est le principe. Ils ont toujours la forme de leur onde sonore qui est affichée, et ils ont un petit outil de modification où on peut supprimer des morceaux.
C'est ça qu'il n'y
On
avait pas avant.
peut recommencer des enregistrements à certains endroits. Voilà, ils ont rajouté cette petite couche de modification qui, pour l'instant, pour des petits enregistrements comme ceux que je fais en ce moment, et je vous en reparle un petit peu plus tard, me suffit amplement. Là, avant, c'était un simple outil d'enregistrement, mais il fallait rien lui demander. Là, si vous voulez, j'utilise ça plutôt que d'utiliser GarageBand, qui est voilà. Hein, j'utilise le marteau plutôt que le bazooka, parce que voilà, ça ne sert pas à grand-chose sinon. Et donc voilà. Alors, si vous êtes
Très
sur
bonne chose.
iOS 13, il est téléchargé d'office. Si vous êtes sur iOS 12, il va falloir aller le télécharger dans l'Apple Store. Voilà, mais ils ont les mêmes fonctions tous les deux.
Ok, super, c'est génial.
Voilà.
Je me le rajoute, je fais une formation avec des iPads dans pas longtemps, là, je vais me le rajouter ça. Très
Moi,
très
j'aime
bien.
bien. Tu sais, c'est très ergonomie à la Apple.
Ouais,
Voilà.
puis en fait, avec toutes les applications déjà d'origine sur les iPads, tu fais déjà beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Tu vois,
Ah.
avec Notes, par exemple, tu vois, par exemple, on fait déjà beaucoup de choses. Donc le dictaphone, maintenant, en plus, on peut faire de la retouche. Génial.
Tout à
Tiens.
fait.
Oh, tiens, on est en arrivant.
Bonsoir, messieurs,
Alors,
dames.
mais qui est cette
L'électricité est
voix?
revenue?
L'électricité est revenue.
D'accord.
Waouh.
Comment ça va?
Ben, ça va bien, ça va très bien. Je suis content de vous retrouver. C'était pas sûr que je puisse être là, vous voyez, et j'arrive quand même, donc c'est cool quoi. Je suis content.
Sous la neige aussi, toi?
Et ben sous la neige, effectivement. Raison pour laquelle l'électricité, j'ai eu peur que ce soit un câble qui m'empêche d'avoir l'électricité pendant longtemps, mais non, ça doit être qu'une surtension
Bon, ça
du
va.
système, j'imagine, en ces périodes froides. Mais bon, à part ça, on va pas parler d'électricité de chez moi pendant 107 ans. Comment allez-vous?
Ça va, on était, tu vois, on finissait les outils tranquillement, donc
Super, bah
on avait
écoutez,
fini la partie outils.
je vous laisse avancer.
Ok,
On
n'hésite pas.
passe à trucs et astuces, Seb. Il n'y a que
Voilà,
toi,
un
y a
truc
que
et
toi qui as un
astuce qui
ami,
m'a
mais donc
choqué.
c'est toi qui continue. Hein.
Ouais, non, mais je vais changer votre vie là, attention,
Ah,
hein. C'est quelque chose
vas-y.
d'incroyable, de passionnant. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'arrive de faire des recherches et de collectionner des différents fichiers avec des noms à coucher dehors. Ça arrive souvent. Ils n'ont pas tous le même nom, etc. Et puis après, quand je veux faire une recherche pour les retrouver, si je les ai pas bien stockés comme il faut, ça va être la cata. Et dernièrement, par le plus grand des hasards, je me suis aperçu que dans notre cher système d'exploitation Windows,
Attends,
quand
je vais
vous
couper, je vais te
sélectionnez...
couper.
Pardon?
Guillaume,
Pardon?
on t'entend vachement taper.
Ah bon? Désolé.
Coupe peut-être ton micro quand tu parles
Yes.
pas. Merci.
Donc,
Vas-y.
sous Windows, quand vous faites un sélectionner tout, contrôle A, et que vous faites un renommer, F2, vous allez avoir un des éléments qui va bien sûr se surligner, et vous allez taper un nouveau nom, je ne sais pas moi, appelons-le truc. Si vous appuyez sur Entrée, en fait, toute la série d'éléments que vous avez sélectionnés va s'appeler truc, avec simplement un numéro à côté.
Ah bon?
Ouais, je t'assure.
Je connaissais pas ça.
Mais écoute, je l'ai découvert par hasard.
Moi non plus. T'es sûr de toi là?
Je suis certain, je l'ai essayé juste avant. Ça fonctionne aussi
Je
avec
vais
les
essayer ça tout
clés.
de suite.
Mais essayez, messieurs, dames. Contrôle A, F2, paf.
Donc tu sélectionnes, enfin, avec un contrôle A,
Ouais.
F2, tu dis que tu renommes le premier. Donc tu
Ouais.
l'appelles Toto, par exemple.
Voilà.
Voilà, je fais entrer. Oh putain, mais c'est génial, c'est
Ah
extraordinaire.
voilà.
Donc tous les fichiers se sont mis Toto 1, Toto 2, Toto 3, Toto 4, Toto 5.
Voilà, monsieur,
Oh,
dame.
génial. Alors là, bravo
Voilà.
à toi. Ah là,
Voilà.
ça,
Mais
c'est
non,
une
mais c'est
astuce
comme ça.
que...
Alors, ça, pour tous mes collègues profs de langue qui ont l'habitude de traiter des fichiers audio, enregistrements d'élèves en masse qu'on récupère sur les tablettes, sur les lecteurs MP3 qui ont tous des noms insupportables avec des chiffres et des trucs, là,
Ouais, c'est pas
eh
faux.
ben, c'est quand même super
Hop.
pratique, ouais.
Voilà. Ouais. Après, ça fonctionne aussi, par exemple, je sais pas, vous avez récupéré tous les épisodes d'une série de façon totalement illégale et vous voulez les renommer d'un coup, ça fonctionne aussi.
Ça,
Mais
je fais
c'est
pas, moi.
mal. Mais ça fonctionne.
Moi, je fais pas ça.
Moi non plus. Mais tu sais, j'ai une imagination débordante.
D'accord.
Non mais
Non,
allô
très bien.
quoi, on est en 2019 et tu continues à télécharger des séries. Non mais ça
Mais
va.
non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus le
Sur Emule, non,
téléchargement.
même.
Non, mais non, mais non, mais non, mais non.
Non, non, en tout cas, super, super truc astuce, hein, ouais, que je
Ah
connaissais
bah
pas.
écoute,
Et... Ouais.
franchement, c'était plus pour la blague, mais si ça vous sert.
Ah non, non, je trouve ça très pratique, hein, très, très pratique.
Et du coup, ça agit sur ton comportement?
Ouais, tout à fait. Allez, je me suis pris un petit moment pour essayer de lire en tout cas un article que j'ai trouvé sur le comportement perturbateur des en classe, qui est un sujet. Voilà, ou un peu pas provoque, mais un peu voilà, houleux, on n'est tout jamais d'accord, etc. Donc là, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle, alors comment on prononce, je sais pas, Ginger, qui est un site qui se dit l'autre info sur la famille, l'enfance et l'éducation. Alors, me suis pas renseigné plus que ça sur ce site-là, en tout cas. Mais il relate en tout cas un article. Je t'embête, Guillaume, mais tu as vraiment un son. On
Il
entend vraiment.
y a un tout
Ouais.
petit en fait. Ouais.
Tu es tout le temps en train de cliquer.
C'est fou.
Vaut mieux que tu coupes quand tu parles pas. Voilà.
D'accord, très bien.
C'est pas un ordre, hein, mais.
Non, mais...
Ça y ressemblait pas mal quand même. Nazi.
Allez, donc il relate en tout cas un article qui va parler en matière de régulation du comportement au sein de la classe d'un professeur qui s'appelle Franck Ramu, qui est professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'École normale supérieure et directeur de recherche au CNRS. Donc, hein, c'est quand même voilà, quelqu'un qui a fait une conférence qui était le 22 mai, donc il y a un petit moment déjà. Hein. L'article quand même date quand même du mois de mai, hein, donc je retarde un petit peu, mais j'ai tombé à côté. Il a fait en tout cas une conférence et c'est un retour de cette conférence que relate en tout cas le site. Cette conférence s'intitulait en tout cas de la perturbation à l'implication, comment faire adhérer les élèves. Alors, il commence par nous dire que pour être en capacité de réguler un comportement problématique, il faut connaître en tout cas les mécanismes qui sous-entendent ce comportement. Il dit que c'est plutôt complexe et pourtant ces déterminants sont aujourd'hui bien connus de la recherche en psychologie. Mais il dit que ces recherches-là sont très peu utilisées dans les ESP où sont formés les enseignants. En tout cas, c'est ce que Franck Ramy nous dit. La réponse, en tout cas, apportée au problème de comportement par les parents ou les enseignants est généralement punitive. C'est vrai qu'on l'a tous fait, hein, moi le premier, attention, je vais te mettre une punition. Or, la recherche montre que les punitions ne constituent pas l'approche la plus efficace. Donc déjà, il attaque sur quelque chose que beaucoup d'enseignants, en tout cas, utilisent cette partie pu punition. Le comportement, en tout cas, il dit que c'est l'ensemble des réactions observables chez un individu. En tout cas, il y a un petit schéma. Il dit que de façon très schématique, on peut identifier les antécédents, ce qui précède immédiatement le comportement, et les conséquences, bah forcément, qui le suivent, avec une boucle selon laquelle certaines conséquences peuvent entraîner la répétition du comportement. Plusieurs explications, en tout cas, il existe à la réaction précise d'un individu, notamment d'un élève. Il dit les explications proximales qui constituent. Alors là, il faut attention le mot. Hein. Les explications proximales qui constituent une causalité plus indirecte. Ce qui veut dire, en fait, il prend un très bon exemple. Si on demande pourquoi Roméo est mort, il dit comme exemple, bah, on répond que, bah, qu'il a pris du poison. Quoi. Ce qui relève d'une explication proximale. Mais si on lui demande, si on nous répond, bah, il s'est suicidé parce qu'il croyait que Juliette était morte. Là, c'est une explication distale. Voilà, qui compose. Je trouve que l'explication est plutôt claire. En tout cas, face à un enfant, l'adulte, en tout cas, s'interroge pourquoi se comporte-t-il comme ça? Alors, on peut chercher des explications dans tout ce qui est famille, forcément. Hein, c'est souvent ce qu'on entend aussi, hein, ces problèmes familiales, dans les gènes, pourquoi pas, dans ce qui s'est passé dans la petite enfance. Mais bon, il dit que c'est quand même très difficile à vérifier ces hypothèses, hein, si elles sont correctes ou non. En tout cas, même si on a des bonnes hypothèses, il nous pose la question, quel sera notre levier pour agir? Ouais, ça va être compliqué de toucher aux gènes ou même à l'environnement familial. Hein, on va pas aller dans la famille faire quelque chose. Donc, il peut être peut-être plus productif de se focaliser sur les causes immédiates. Il dit que le comportement est très largement appris par observation, par imitation, par renforcement. On acquiert en tout cas un comportement parce que dans le passé, ce comportement était suivi de conséquences positives. Il dit que notre comportement a toujours une fonction. C'est obtenir quelque chose, acquérir un bien matériel, un statut social, attirer l'attention, établir un rapport de force en sa faveur, éviter un événement perçu comme désagréable. Par exemple, les activités où on peut avoir un risque d'échec ou qui paraissent ennuyeuses, l'élève, lui, va le faire sur un mauvais comportement. Un enseignant confronté à un comportement perturbateur, devra toujours se demander quelle fonction ce comportement joue pour l'élève. Alors, pour obtenir un changement de comportement, c'est sur tout ça, là, c'est bien, il fait un constat, etc. Voilà. Il dit qu'il existe donc deux leviers majeurs, les antécédents et les conséquences. Il dit qu'en classe, parmi les antécédents, notamment ceux qui sont susceptibles d'entraîner des comportements perturbateurs, on va trouver les instructions données par l'enseignant, le comportement de celui-ci, l'intonation de sa voix, s'il sourit ou pas, trouver un événement extérieur, une insulte, des moqueries, des provocations. Donc, ça peut être tout ça qui peut engendrer un comportement. Les conséquences, c'est ce qui se passe après. Donc, il englobe le retour d'information de l'enseignant sur ce que fait l'élève. Mais une conséquence peut être positive ou négative. En général, en tout cas, les comportements perturbateurs résistent car ils ont déjà été renforcés. Une crise peut survenir quand l'élève il veut s'échapper d'une tâche pénible, quoi, parce qu'il n'a pas envie de faire le travail. Ils peuvent tout faire pour qu'on le mette à la porte, par exemple. Le fait de ne pas avoir à faire l'exercice renforce le comportement perturbateur. Hein, il n'est pas obligé de le faire. La conséquence positive, par contre, peut venir du côté des camarades, hein, lorsqu'ils rient, par exemple, ou ils attirent l'attention. En tout cas, il dit que l'être humain forcément est sociable, on a tous besoin que les autres fassent attention à nous. Donc, c'est important de bien analyser, de faire attention sur le comportement perturbateur de l'élève. Donc, les règles, il va expliquer quelques règles. Donc, c'est là un petit peu... Voilà. Ouais, il va parler de la règle du 5 pour 1. Alors, il dit, comment modifier ses comportements? Eh bien, il y a une règle qui s'appelle 5 pour 1, c'est-à-dire, elle a été formalisée par Gottman en 1993, qui a observé dans son étude que les couples les plus stables sont ceux qui se font 5 fois plus de commentaires positifs que négatifs. Ah, donc, dans les classes... Les commentaires perturbateurs et les périodes d'inattention dépendent aussi de ce rapport de 5 pour 1. Alors, il dit, on n'est pas des bisounours, hein, c'est pas un nombre magique non plus. Hein.
Le mec, il vient d'inventer la bienveillance, en fait, un peu, là.
Laisse-moi finir, après, tu pourras rebondir. Donc, l'effet négatif peut être dévastateur, il faut du positif, d'accord. Donc, voilà, il y a toujours ce ratio de 5 pour 1. Donc, après, il nous parle des punitions. Hein, forcément, les inconvénients des punitions, la souffrance. Il dit que les heures de colle, alors j'ai bien aimé ça, les heures de colle impliquent qu'être à l'école est en soi une punition. C'est vrai qu'une heure de colle, ils sont obligés de rester à l'école le mercredi, donc oui, l'école est une punition. Un travail supplémentaire, c'est-à-dire que le travail, finalement, c'est négatif. Il dit que les adolescents, en tout cas, apprennent autant que les adultes des récompenses, mais apprennent moins que les adultes des punitions. Ils sont aussi moins sensibles aux promesses et aux menaces. Et il va finir sur, l'article est assez long, hein. Identifier et renforcer le comportement positif.
Non, non.
Voilà. Comment ?
Non, rien, j'étais en train de dire une connerie, donc continue.
Donc il dit qu'on n'enseigne pas assez les comportements positifs à mettre en place, à la place du comportement négatif. Donc de bien analyser, en tout cas, l'adulte doit chercher à identifier le comportement positif. Donc il existe plusieurs positifs, décomposer le comportement, modeler, l'enfant possède des bribes du comportement opposé positif. On récompense les époches, on simule, on guide le comportement de l'élève, on l'aide un petit peu là-dessus. Voilà, il dit qu'il faut agir sur les antécédents. Hein, certains antécédents augmentent le risque de désobéissance, donner un ordre et ne laisser aucun choix. Et en fait, crier, s'énerver, voilà, c'est. Il dit plutôt qu'il faut. Qui augmente la probabilité de comportement lésé, la politesse, le ton aimable, lorsque démarrage est difficile, et l'aider plutôt qu'ordonner, être clair et spécifique. Donc, il parle des récompenses, et donner des petites récompenses, d'accord
J'ai envie d'intervenir toutes les 5 secondes.
tu veux que je finisse ou tu veux.
Fini, mais j'aurais dû prendre des notes, il y a trop de choses à dire.
T'as l'article sous les yeux. T'as le lien aussi où j'ai mis mes notes. Donc, apprendre à ne pas renforcer les mots négatifs, comment ne pas forcer des comportements perturbateurs, car souvent ces comportements reçoivent un renforcement positif sans que l'adulte ne s'en rende compte. L'extinction, il dit aussi des fois, il faut rien dire, il faut laisser faire. C'est très difficile, mais ça peut aider aussi. Voilà, en tout cas, en résumé, pour diminuer un comportement indésirable, il dit que vraiment que c'est identifier les antécédents et les conséquences qui ont renforcé ce comportement, les réduire et les éliminer. Identifier et expliciter les comportements opposés positifs et les récompenser. Utiliser les antécédents positifs pour augmenter la probabilité des comportements désirés. Voilà, donc il dit quand même que ces méthodes découlent d'un siècle de recherche scientifique en psychologie. Ah, c'est pas d'erreur, hein, d'accord. Elle engendre des progrès scolaires. Il dit que Franck Ramut, que tous les personnels de l'éducation nationale devraient avoir une formation de base sur le comportement. Donc il parle bien de la formation initiale, hein. Une partie des personnels devrait recevoir une formation renforcée. Il faudrait une formation spécialisée dans chaque établissement. Alors il dit forcément les méthodes que je parle suscitent des questionnements, des controverses, bien sûr. Est-ce que c'est éthique de conditionner, est-il éthique de conditionner les élèves? Est-ce de la manipulation? Est-ce déloyable d'utiliser des moyens efficaces pour influencer les comportements des élèves? En tout cas, il dit que de manière générale, pour les enseignants, oui, hein, puisqu'il s'agit d'obtenir le calme pour faciliter les apprentissages. Donc, il dit que sa source principale est à quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle Alan Kazdin, qui est psychologue américain, auteur de nombreux ouvrages de référence, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Voilà, en tout cas, moi, je trouve... Alors, je vais vous laisser parler, je vous dirai un petit peu mon avis là-dessus, après. Guillaume, tu avais envie de bouillir un peu là-dessus, là. Tu vas parler de bienveillance. Oui. On n'a pas du Guillaume.
Non, il a peut-être oublié de remettre son micro.
Ah, bah oui, forcément, à force de le couper. Ça faisait 5 minutes que je parlais tout seul. J'étais en train de dire que je regardais tes notes et que, comme mes étudiants, tu surlignes tout, en fait. Donc, c'est bien, on ne sait pas ce qu'il faut lire. Non, je voulais réagir parce que... Bon, il faut prendre le temps de lire l'article plus précisément, j'en conviens, mais globalement, dans ce que tu as très bien résumé, c'est que finalement, le mec, il nous invente ce qu'on appelle un peu n'importe comment, d'ailleurs, à tort et à travers la bienveillance, quoi. Je veux dire, il a raison, mais quand il dit agir sur les antécédents du comportement négatif, la politesse, le ton aimable, câble et sourire, il a raison, parce que malheureusement, c'est ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on fait. Toi, comme moi, t'es en collège, Jeff, j'imagine que toi, Seb, encore plus dans le premier degré, parce que vous êtes les premiers remparts, on va dire, de ce qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on fait de plus en plus, finalement. Mais ouais, quoi. Enfin, c'est rigolo qu'un mec qui soit bardé de diplômes, il te dise qu'en gros, il faut que les gamins ils soient calmes et qu'ils soient polis. Et que voilà, moi, de plus en plus dans mes cours, je commence par 2 minutes de relaxation. Ça se fait de plus en plus, mais de vraie relaxation, hein. Exercice sur le souffle, on pose sa voix parce qu'on a des gamins tellement surexcités qu'on peut pas travailler sans ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, hein, de ce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un truc très scientifique pour dire les choses finalement. Un peu bateau, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup, mais je me trompe peut-être, hein, appris de choses. Voilà. Quand t'as surligné ça, apprendre à ne pas renforcer les comportements négatifs, mais Enfin, je sais pas, ça vous paraît pas complètement évident?
Oui, mais toi, tu as de la bouteille, mon grand. Est-ce que tu crois qu'un quand tu étais jeune prof, quand on t'arrivait devant, est-ce que tu pensais à. Est-ce que tu
Ouais, tu
pensais
veux
à
dire
faire
si ça
ça, tu
s'adresse
vois?
à des... Ouais, bah, en tout cas, je sais pas, je suis d'accord avec toi qu'on est moins de
Tu
recul,
vois?
mais en tout cas, je pense pas qu'à...
La
Ouais.
bienveillance, c'est un mot qu'on en met à toutes les sauces en ce moment.
Ah, moi, je
Hein?
peux plus l'entendre ce mot. Je peux
Voilà.
plus l'entendre d'ailleurs.
On le met à toutes les
Et...
sauces, mais est-ce que la plupart des enseignants savent ce qu'il y a derrière, en fait?
Non, ils savent pas ce qu'il y a derrière, mais à mon avis, ne pas renforcer des comportements négatifs sans être allé à l'ESP, sans être allé je sais pas où, humainement parlant. Quand tu es face à quelqu'un qui est négatif et qui a des. En tout cas, quand tu souhaites travailler avec des jeunes, hein, bien sûr, tu ne te dis pas que la première réponse, ça va être de monter en puissance. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas renforcer ce comportement négatif. En fait, tu vois, c'est bizarre. Je veux dire, dans l'intitulé, il y a quelque chose. Pour moi, apprendre à ne pas renforcer les comportements négatifs, c'est comme dire ne pas donner de la drogue, quoi. Enfin, je ne sais pas comment te dire, tu vois. C'est tellement évident, mais peut-être pas. Tu as raison. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Seb.
T'es pas la cible, toi,
Non,
pour moi. Ouais, c'est
je
vrai.
suis pas vraiment la cible. Alors, ce monsieur a fait partie du conseil, a fait ou fait partie du conseil scientifique, etc. Alors, il y a des choses. J'ai trouvé un article du Point où il s'exprime un peu. Il dit des choses que j'aime bien entendre, hein, du style. Voilà. La plupart des ministres ont mené des réformes éducatives sur la base de simples opinions soufflées par des gourous. Voilà, oui, bon, voilà, il a des idées avec lesquelles je vais être d'accord, mais comme tu l'as dit, parfois c'est tellement bateau. Et moi, le problème que j'ai, alors je l'ai peut-être mal, pas bien relevé, mais ça faisait un petit peu. Alors attends, j'ai une recette. On sait, mais on l'applique pas. Et oui, il faut pas vraiment, bien sûr. Alors, après, il y a un angle de vue qui manque, c'est qu'il y a chez les élèves une part auquel on n'a pas accès, à laquelle on n'a pas accès et qui est. Super importante, c'est tout ce qui se passe en dehors, quoi. Quand tu as un gamin, je sais pas,
Cécile
moi,
si, en
que
parle, j'en ai
par exemple,
parlé. Cécile si, en
c'est-à-dire,
parle, bien sûr.
mais par exemple, mais c'est super important, quoi. C'est même primordial. Si le gamin il dort pas chez lui, si le gamin il est pas logé correctement, s'il a pas une
Non, mais
attention.
ça il en parle, puisqu'il dit qu'on peut pas agir, on peut pas difficilement agir sur l'extérieur, justement.
Oui, mais justement, mais il y a l'extérieur parfois prend une proportion tellement énorme par rapport à ce que nous sommes nous. Qu'en fait, on est quoi là? On est juste un truc que l'élève n'identifie même pas, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Mais je ne suis pas le cœur de cible, donc ça m'échappe un peu tout ça.
Non, moi je trouve que c'est une réflexion, en tout cas, ça pose, moi je trouve les bases sur certaines choses. Et si j'avais eu ça, moi jeune enseignant, quand je suis arrivé devant les élèves la première fois, bah ça m'aurait déjà fait réfléchir là-dessus, quoi.
Ah, mais
Tu
comme
vois?
piste de réflexion, je ne te dis pas. Hein. Comme piste de réflexion, je suis d'accord.
C'est vrai que maintenant tu te dis, bah non, ok, j'ai un peu de bouteille, etc. Donc, mais voilà. En tout cas, allez lire ce. Je vous ai mis les notes dans les notes de l'émission, hein, sur Ginger, je sais pas comment on dit en plus,
Non, c'est
Gingerer.fr.
ouais, parce que moi je l'avais mis avec un
Comment?
i du coup, je sais pas pourquoi, mais
C'est un Y, ouais. On a perdu Guillaume à nouveau?
non, il est toujours là. Ah bah si,
Ah
oui,
bon,
tu as raison,
d'accord.
on l'a perdu. Je
Si,
pensais
si,
c'était, j'entendais un petit bruit donc.
l'électricité, c'est encore. C'est bien, il arrive au bon moment. Allez, Seb, tu fais quoi en ce moment?
Alors en ce moment, je vous avais. Alors on en avait parlé il y a peu. On avait parlé de GlideApps, ou en bonne GlideApps, qui vous permet à partir d'une feuille de tableur d'obtenir un site. Enfin une Google, à partir d'une Google Sheet, d'obtenir un site
Même
internet. Ils vous la mettent en forme. Et je
sur
trouve,
mobile, plutôt même
voilà,
presque une
voilà,
voilà. Ouais.
tout à fait. J'ai beaucoup aimé le principe et du coup ça m'a donné une envie pour cette année que je suis en train de construire avec les élèves. Je fais un petit site avec des histoires à écouter. J'avais un vieux stock de magazines, de lectures, etc., avec des petites histoires qui traînaient et qui commençaient à partir en morceaux. Donc, je les ai récupérées. Avec Office Lens, on en a parlé, j'ai scanné les textes et je les ai récupérés. Ensuite, j'ai découpé ça, j'ai distribué ça aux élèves, qui ont enregistré avec dictaphone, on en a parlé tout à l'heure, voilà, qui m'ont envoyé ça par AirDrop, j'ai tout récupéré sur un seul iPad, et du coup, je vais monter ça vite fait, et ça va me faire une petite histoire. Et mon but sur l'année, c'est de réussir à en collecter suffisamment pour avoir un site, et pourquoi pas ne pas pour l'utiliser, alors ce restera dans le cadre de l'école, par exemple au niveau des maternelles ou des CPCE1 qui sont dans les deux autres classes. Donc voilà mon projet du moment. Et vous voyez, j'ai essayé d'articuler un petit peu toutes les ressources qu'on avait pu proposer dans les émissions précédentes.
Bien. Donc ça, on pourra le voir ou non, ça reste interne.
J'en parlerai pour l'évolution. Après, pour le partage, non, je vais garder ça. Je l'ai partagé sur mon site perso. J'avais fait un essai un week-end, voir ce qu'on pouvait faire avec GlideApps en prenant des histoires qui étaient dans le domaine public, etc. Ça, je l'ai mis sur mon Twitter, si vous voulez voir à quoi ça ressemble.
Ok. Super.
Et toi, alors ?
Moi je suis toujours dans tout ce qui est mise en place des rencontres. C'est bon, Yann ?
Ouais.
Moi, je suis en tout cas sur la mise en place en ce moment des rencontres nationales de robotique. Ça va se passer au mois de janvier. Donc je mets en place ça avec l'IFE, donc l'Institut français d'éducation, et la DAN de Lyon. Donc ça me prend énormément de temps. C'est la première fois que je monte un séminaire. Donc, tu vois, ça prend énormément de temps d'avoir des intervenants, chercher les intervenants, faire un peu de com pour récupérer les intervenants, c'est tout une première fois que je faisais ça, c'est super intéressant, en tout cas.
C'est toi qui le montes?
Ouais, avec l'IFE, ouais, tout à fait.
Ouais, super.
Donc c'est mon gros boulot du moment et on passe beaucoup de temps à des réunions, à chercher à lire tout ce qui est intervenant. On a eu beaucoup de demandes, en tout cas, pour participer. Et voilà, c'est mon quotidien en ce moment qui me prend énormément de temps. Et j'en parlerai un 15 et 16 janvier sur Lyon, les rencontres nationales de la robotique éducative. Donc dans pas longtemps, on mettra en place les inscriptions. Voilà.
Super. Alors moi j'ai marqué moi aussi, mais en fait je me suis trompé, j'ai lu vite ton acronyme. Je pensais que tu parlais du référentiel national justement des compétences numériques en fait.
Le CRCN.
Je me suis trompé et voilà, je suis aussi là-dedans puisque comme vous le savez peut-être, ce référentiel demande surtout de la part de nos inspections en amont des scénarii pédagogiques, en tout cas des séquences qui vont pouvoir valider, dans lesquelles, dans chaque matière, on pourra décliner certaines de ces compétences, de ce référentiel, pour pas que ce soit encore un machin uniquement pour vulgariser. Ouais, c'est les profs de techno qui vont le valider, quoi. Voilà.
Hein. C'est le risque.
Ce qui a déjà été, de toute façon, tenté d'être fait déjà avec le B2I, quelque part. Hein. À l'époque, on disait bien que, déjà, dans les séquences, il fallait que toutes les séquences de toutes les disciplines puisse à un certain moment valider des éléments du B2I. Bon, clairement, ce n'était pas fait. Et justement, je pense que les inspections, en tout cas la mienne, l'inspection de langue vivante, insiste un peu là-dessus et nous demande, formateurs, de réfléchir un peu à comment les mettre en avant. Donc, c'est quand même un sacré challenge parce qu'en fait, on fait beaucoup de numérique, mais c'est pas toujours évident de rentrer dans les cases ou alors de voilà, donc c'est un truc intéressant et puis j'espère surtout qu'on le fera pas pour rien et que tous les gens penseront à le faire quoi, parce que c'est quand même vraiment l'intérêt de ce référentiel, de ne pas bloquer, de ne pas trop compartimenter ça dans son coin et que ce soit vraiment transversal
tout à fait
dans les séquences. Donc ça me prend un petit peu de temps de réfléchir à ça, voilà.
Surtout qu'il va être, ils vont être évalués, ces compétences, surtout. Donc,
et ben, bien évidemment, Mais bon, ça pose quand même un certain nombre de questions, sur l'évaluation, sur... en fait, encore une fois, mais comme tout dans le digital et le numérique, je trouve que, à part les gens qui y pensent, encore plus comme toi, Jeff, en étant à la DAN, ou moi comme moi, en y réfléchissant à plus que les autres, quand on en parle encore aux autres, mais ils sont à des années-lumière, et ils ont encore tous souvent cette réaction de dire... c'est pas pour nous, on n'est pas concerné. Ou... Et c'est ça qui est dur, quoi. De leur dire, si, en fait, c'est bien, tous les personnels, tous les...
Oui, il y a beaucoup de disciplines qui sont concernées, pratiquement.
Ah, mais c'est toutes, en fait, c'est ça l'idée, quoi. Sauf que c'est encore dans la tête des gens, surtout moi, encore en langue vivante, quand je leur dis ça, en train de dire, ah, bah non, mais nous, on va rien faire, c'est... Ben non, c'est... Voilà. Donc, c'est pas... voilà, donc je travaille un petit peu là-dessus, tout simplement.
Ok. Bon, on va se détendre un petit peu, on va parler d'autre chose. Hein ?
Très bien.
C'est moi en premier qui ai mis, donc c'est moi qui commence.
Allez, vas-y. T'es trop autoritaire ce soir, je trouve.
Ouais, premier écrit. je suis en ce moment sur une série, vous savez que moi je suis très série, hein, par les séries, vous avez vu, je ne lis pas beaucoup. mais je regarde pas mal à la télé. Donc, je suis sur La Guerre des Mondes, la série qui est sur Canal+ en ce moment. Alors, La Guerre des Mondes, alors, on le présente plus, hein, de célèbre de Wells, hein, de G. Wells.
Ah, donc, c'était ma question. C'est bien ça.
C'est bien. La même chose, en fait. Hein. Tout à fait. C'est bien la même chose. Ah, okay. Donc voilà, le célèbre roman hein, qui est des années...
Et ce très mauvais film avec... comment il s'appelle,
Tom Cruise
Top Gun, là, avec Top Gun, ouais,
voilà, Tom Cruise. Voilà, Tom Cruise, voilà. Alors c'est une production, moi j'étais un peu pas lancé comme ça, j'avais lu La Guerre des Mondes hein, quand j'étais au collège, je crois. Hein.
C'est d'ailleurs le dernier livre que tu as lu, non?
Sûrement, ouais.
Sûrement. Allez, c'est de bonne guerre.
J'avais beaucoup accroché, hein, parce que, voilà, le film, je suis moins catégorique que toi, mais bon, voilà.
Et le vieux.
Alors oui, il y avait un vieux que j'ai jamais vu, ouais, tout à fait.
Ah bah ouais, ouais, le premier.
J'ai découvert après, ouais. Et donc là, c'est une série qui est franco-américaine-anglaise, déjà. Donc il y a toute une partie qui se passe donc dans les trois pays. Et c'est assez... Enfin, c'est assez bluffant. Donc, en tout cas, c'est l'aspect un peu horrifique y est, puisqu'il y a beaucoup de suspense dessus. La partie, en tout cas, donc extraterrestre, etc., est plutôt bien foutue. Et tout se mélange. Hein, voilà, je veux pas trop en dire non plus, mais justement, on est sur trois pays et tout va un petit peu se regrouper. Je vous le conseille de vraiment le regarder en VO parce que ça parle en français d'un côté, ça parle en anglais de l'autre. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'accroche. J'ai pas de fini pour l'instant. Hein, je crois que je suis à l'épisode 5. Il y a des épisodes, en tout cas, les deux premiers sont vraiment au top. Ça baisse un petit peu, ça reprend après. Mais moi, je vous le conseille en tout cas. Donc, vous voyez, par exemple, c'est avec Gabriel Byrne, hein, qui est assez connu. Ou par exemple, en français, c'est Léa Drucker qui joue dedans. Voilà, qui joue une scientifique et qui est plutôt plausible en tout cas. Voilà, moi, je vous le conseille en tout cas. La Guerre des Mondes sur Canal, vraiment une très bonne série. Coproduite par Canal en plus, donc Cocorico, et voilà, en tout cas c'est une très très bonne série. Je pense que c'est une série qui aura qu'une saison d'après moi, même si je n'ai pas encore vu la fin, mais c'est prévu en tout cas comme ça. Voilà, La Guerre des Mondes en tout cas sur Canal+.
Ok, donc moi je vais sortir de Canal et je vais vous reparler de YouTube, décidément. Je vais vous proposer Vortex sur YouTube, qui est un peu les Avengers des YouTubeurs de vulgarisation, puisque vous allez y retrouver, par exemple, notre ami d'hygiène mentale, qui discutera avec Manon Brie pour savoir si, est-ce que, en définitive, les personnes de l'Antiquité, les Grecs, croyaient dans leur mythe, vraiment, etc. Celle-là m'a beaucoup plu, franchement, j'étais un peu étonné. Attention, la fin va vous surprendre, comme on dirait. Vous avez Patrick Beau qui discute aussi avec Manon Bril sur les astrolabes, très sympa aussi. Enfin voilà, donc vous avez cette espèce d'association de deux vidéastes de YouTube qui sont des vulgarisateurs habituels et alors bien sûr le petit côté, ils ont un petit côté faux mauvais jeu de comédien qui est assez rigolo. Et par contre, les informations, elles sont toujours assez sympas à suivre. Et vous avez un bon nombre, je crois, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est en collaboration avec Arte. Ça mériterait que je vérifie, mais bon, sans le pire des cas, je me serais trompé. Ce n'est pas très, très grave.
Je suis dessus, voilà. Je n'ai pas vu marqué, mais bon.
Voilà. Bon, ben, écoute, ce n'est pas très grave. En tout cas, oui, c'est en collaboration avec Arte. Vous savez, bon, okay, Arte, CNRS, Dailymotion. Je ne sais pas ce que ça fait sur YouTube, du coup, mais ce n'est pas grave. Et en tout cas, le principe, l'idée et le produit fini sont très sympas.
Voilà. Okay. Vortex, oui. Tu n'avais pas dit non, il me semble. Sur YouTube.
Et ben moi, pour finir, je vais vous parler d'une série que vous connaissez certainement déjà tous, que je m'étais réservé depuis un petit moment sur ma watchlist, mais comme on ne peut pas tout voir tout le temps, tout de suite, des fois ça tend un peu, qui est donc, et ben j'ai déjà oublié, mais c'est pas Criminal Minds, si, c'est ça
si, si, je ne connais même pas, moi, donc...
Qu'est-ce que j'ai écrit?
Esprit criminel?
Non, c'est pas Esprit criminel, justement. Alors, je me suis trompé, c'est pas Esprit criminel. C'est pas ça, hein. C'est un truc sur Netflix, là, qui peut...
Derrick.
Ah, Derrick. Attendez.
Eh, tu sais quoi, ce qu'il y a de bien, alors,
c'est le renard.
Jeff, il tue.
Il est toujours bien coiffé, ce Derrick. Toujours bien coiffé. Putain, mais je suis en train. Mais non, c'est mais pas possible.
Derrick, ouais, la saison 28, elle est vraiment très sympa en plus. Ouais.
Si ouais, vous me laissez.
À la fin, c'est incroyable ce qui se passe. Hein.
Oui.
Si vous me laissez 3 secondes, ça y est, j'ai mis Criminal Mind, c'est ça sur le document ?
Oui, c'est Esprit Criminel.
Donc, c'est pas du tout ça. On y arrive, bien sûr. C'est Mindhunter. Hein.
Ah, oui, d'accord.
Ah, ce que je me disais, je connais.
Voilà, qui. Mais il y a quand même des points communs quelque part. On parlait depuis longtemps, donc le pitch rapidement, hein, c'est tout simplement sur. Voilà, ça se passe dans les années 70, je crois que c'est 77 exactement ou 78. On va dire au tout début du profilage, pour utiliser un anglicisme à la CIA, l'histoire en fait d'un jeune enseignant qui. D'un détective qui finit par être enseignant, qui travaille justement sur les tueurs, les criminels, et qui monte en fait une sorte de cellule petit à petit sur ce qui va être, on va dire, le début du profilage, du profiling, et qui travaille en analysant, décortiquant des cas de tueurs en série qui est connu, notamment bien sûr Manson. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait pour ce genre de truc qui est déjà vu et revu. C'était plutôt bien réalisé, bien écrit, bien joué. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Pas la série du siècle, mais j'ai passé un bon moment. Voilà. Vous connaissez, les gars, oui ?
Ouais.
Je connais le nom, mais j'ai jamais regardé. Non.
Moi, j'ai regardé. Moi, ouais, Après, c'est un rythme, hein, comme série. Voilà, ça a son rythme. Voilà, c'est très très intéressant au niveau de la mise en place de la cellule, les premiers écueils, comment ils se récupèrent, etc. Comment on monte quelque chose qui nous paraît tellement évident maintenant, mais qui est totalement méconnu à l'époque. Non, c'était, il y a de très bons. Après, il faut aimer les séries assez lentes.
Exactement. Et une deuxième série, mais qui n'a rien à voir, dont je voulais vous parler. Là, j'y ai pensé maintenant, que j'ai bien aimé. Jeff, tu avais parlé de la série Dopamine produite par Arte, ces épisodes très très courts là, qui étaient vraiment super bien. Ouais. Et ils font souvent ça. Et ils ont fait un truc sur des artistes du jeu vidéo français, des mini-interviews de 3-4 minutes, donc des créateurs de Alone in the Dark, de à peu près. Bon, c'est celui dont je me souviens le plus. Après, les autres noms, moi, je connaissais moins, mais des jeux vraiment de fin 70 jusqu'à récemment sur des softs qui sont devenus très très connus pour certains. Et c'est absolument intéressant parce que ça dure 4 minutes, pareil. Et ça va plus que sur le côté technologique. Oui, comment il s'appelait ce jeu sur Super NES qui était absolument génial, un gars tout seul, le premier en polygone. Ah, c'est pas grave, ça va revenir.
Another World.
Voilà, exactement. Cocorico, là aussi. Et vraiment, ça s'intéresse plus au scénario, à l'idée, vraiment, hein, ce qu'on oublie trop souvent dans le jeu vidéo, qui fait qu'un jeu vidéo est bon, et un peu moins sur la technique. Hein, si vous cherchez à savoir en quel langage ils ont codé les jeux, et c'est pas beaucoup moins, ils en parlent un peu, mais beaucoup moins. Et vraiment, ces gens-là sont des artistes, quoi, sont des créateurs fous. Hein, c'est absolument génial quand on imagine le monde. Et, par exemple, Another World, exactement. Moi, quand j'étais gamin, que j'achetais Player One et qu'on nous parlait de ce jeu, pour moi, c'était à l'époque déjà 15 mecs qui bossaient sur le projet. Le gars est tout seul. Il a codé ça tout seul pendant je ne sais plus combien de mois chez lui. Il a tout fait de A à Z. Il explique même jusqu'à faire la bande-son et surtout les bruitages qu'il faisait dans sa salle de bain. Enfin, c'est assez fou, tout ce côté bricolage DIY qu'il y a, alors que c'est un des plus premiers jeux de rôle qui a été le plus acclamé, on va dire, sur cette console. Et quand on voit qu'aujourd'hui, à l'inverse, les studios de jeux vidéo pour sortir les Uncharted ou les, Red Redemption, je ne sais pas quoi, sur les PlayStation et compagnie, en fait, les mecs, ils sont, je ne sais pas, mais ils doivent être plus de 100 à travailler pendant 2 ans d'affilée sur des projets, quoi. C'est, ouais. C'est assez fou. Donc, allez voir, je ne me rappelle plus le nom, par contre,
oui,
de la série.
Oui, c'est ce que j'ai demandé, c'est quoi le nom.
Je suis désolé, mais vous allez sur Arte TV, sur l'application, ce que vous voulez, que je vous invite tous absolument à avoir, tellement c'est quand même absolument génial. Elle y est en ce moment, voilà, dans les mini-séries jeux vidéo français, je ne sais plus. Je le retrouverai, mais ça se trouve, hein, il n'y en a qu'une, de toute façon. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà.
Ok, j'arrivais pas à trouver, c'est pour ça.
Je vais te la retrouver.
Ouais, ça marche. Eh ben très bien, une émission plutôt riche, finalement. Hein, les gars.
Finalement.
On a finalement,
Bon, voilà. Juste pour finir, ceux qui ont la vidéo, si j'arrive à tourner ma caméra, quand même, vous expliquer pourquoi j'étais en retard, entre autres, mais je crois que je ne vais pas y arriver, tant pis. Toggle camera, voilà.
Qu'est-ce que t'as ? La neige dans le salon.
Oh, vous voyez, regardez, c'est joli, mais c'est neige de partout, ça casse les trucs. C'est mignon, hein, quand on est à l'intérieur.
C'est joli. Mais il ne faut pas que je te fasse voir chez moi, alors.
Ouais, bah, j'imagine, toi, que c'est pareil. C'est même pire.
C'est pire, je pense. Demain matin, j'ai une heure de pelletage, à mon avis, pour sortir de la voiture.
Aïe.
Mais bon, c'est les joies de la montagne.
De la montagne. Très bien.
Bon, eh ben, les gars, on se
souhaite un
tour. D'ici là, faut nous retrouver sur eTeachers.fr, sur toutes les applis de podcast, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie, sur Spotify, sur Deezer maintenant, mais on est même. Voilà. Et puis, si vous voulez nous parler, en tout cas directement, il y a vos Twitter, les gars, qui est Guillaume.
Willow_teach.
Voilà, Seb.
Tuteur, STUTEUR.
Voilà, et moi, c'est Jeff8342. Voilà, à bientôt.
Bonne soirée.
À bientôt.
Ciao. Ciao.